Alors ce soir, nous allons poursuivre notre étude de l'histoire de l'armée du salut. Et nous avons vu cette évolution qui s'était produite au cours des années et qui avait fait que ce mouvement d'évangélisation se militarisait de plus en plus, pas dans le sens propre du terme, parce que c'était quand même un mouvement de paix, une armée de paix, mais dans sa terminologie, dans sa manière de se présenter, etc., se modeler sur une structure de plus en plus militaire. C'était aussi dû au fait que William Booth le dominait de plus en plus, ce mouvement, et il en devenait vraiment le chef de plus en plus absolu. Et déjà, avant même que l'organisation ne prenne le nom d'Armée du Salut, ses collaborateurs l'appelaient le général. C'était déjà quelque chose qui était dans l'air. À partir de cette période-là, Madame Booth a commencé à avoir aussi une santé quelque peu déficiente, et ça a pas mal rejailli sur son humeur. Elle était une femme assez irritable, disons, exigeante, voire même tyrannique parfois dans certains aspects. Et bon, c'est certain que elle était aussi, elle avait aussi une grande autorité, n'est-ce pas? Et non seulement il y avait le général, mais il y avait la générale aussi. Il fallait tenir compte, quoi. Bon. Le général, entre guillemets, était un homme qui était tellement consacré à son travail que finalement rien d'autre ne comptait. Et très vite, les enfants, quand ils vont grandir, vont vraiment aussi se tourner vers Dieu, être vraiment des jeunes gens et des jeunes filles qui vont se convertir au Seigneur. Et immédiatement, ils vont entrer dans l'œuvre de Dieu à leur niveau. C'est ainsi, par exemple, que 7 sur les 8 enfants de la famille Booth sont devenus prédicateurs de l'Évangile dans le cadre de l'organisation créée par leurs parents. Le 8e, c'est pas qu'il n'en avait pas le désir, mais il était de santé tellement fragile qu'il n'a pas pu donner suite à son désir. Le premier garçon, qui s'appelait Bramwell, qui deviendra d'ailleurs le successeur de son père, a commencé à donner son témoignage dans les réunions publiques dès l'âge de 12 ans. Donc, il est entré au service, enfin déjà à un petit niveau, à 12 ans, il avait fait des expériences avec Dieu suffisantes pour qu'il puisse donner son témoignage en public et sans peur devant les buveurs, devant les ivrognes, devant les bagarreurs, etc. Sa petite sœur Emma, qui avait 9 ans, a commencé à aussi donner son témoignage au même âge, donc à 9 ans. Et William Booth a commencé des réunions d'enfants dans lesquelles intervenaient justement ces enfants par leur témoignage, puis petit à petit par des petites prédications, et c'est ainsi que les enfants Booth se sont lancés dans l'œuvre de Dieu. Et dès qu'ils se sont lancés dans l'œuvre de Dieu, pratiquement ils ont tout de suite été mis sur le tas. William Booth était contre les écoles bibliques, il était contre de longues études pour se former aux choses de Dieu. Il pensait que se former aux choses de Dieu, c'était essentiellement se former sur le tas. Branwell, le fils aîné, était manifestement quelqu'un qui avait un ministère de pasteur. C'était le vrai pasteur au sens d'Éphésiens 4. Il était pasteur vraiment dans l'âme. C'était un homme très, très pondéré, réfléchi. Il était un peu différent de son père. Il était pas mal différent de son père, d'ailleurs, dans ce domaine. Et sa grande rigueur, son sens de l'organisation fera qu'il sera tout désigné pour succéder à son père. Il sera le deuxième général de l'armée du salut après William. Deux autres garçons, Wellington et William, se sépareront de l'armée du salut en 1896 et en 1902, parce que précisément, ils étaient un peu en désaccord avec les méthodes qui étaient celles de l'armée du salut, mais ils resteront bien entendu fidèles à l'Évangile et aussi engagés profondément dans l'œuvre de Dieu. Une autre fille aussi aura un grand rayonnement, c'est Évangeline Booth, qui donc deviendra aussi, qui succédera à son frère Branwell comme général. Et elle est morte en 1939. C'est d'ailleurs la personne qui a lancé l'armée du salut en France. C'est elle qui est venue en France pour lancer le mouvement, c'est pas, et elle avait appris le français, et elle se débrouillait pas trop mal en français d'ailleurs. Et c'est ainsi que en janvier 1877, je ne sais plus les chiffres, je suis fatigué ce soir, a eu lieu la conférence annuelle de l'organisation. Il y avait 36 délégués. Et c'est à cette fameuse réunion, n'est-ce pas, qui s'est tenue de cette année 1877 que William a présenté sa révolution, c'est-à-dire le plan qui était le sien de transformer l'organisation en une armée avec une structure militaire et par conséquent un seul homme pour la diriger. Son idée était celle-ci, n'est-ce pas, son argumentation était celle-ci. On était en guerre, on était en guerre contre le péché. Il y avait urgence, on ne pouvait pas déléguer les décisions. Il fallait que, comme dans une guerre, n'est-ce pas, prendre des décisions sur le champ. Et on n'avait pas le temps de rassembler des comités, de discuter pendant des jours et des jours, d'attendre des jours et des jours que le comité se rassemble et qu'il fallait que un seul homme donc prenne les décisions. Bon, c'était évidemment extrêmement discutable, bibliquement parlant, comme structure. Finalement, c'était revenir au papisme. L'armée du salut a la même structure hiérarchique finalement que l'Église catholique, peut-être même plus encore. Évidemment, c'est quelque chose qui se voit moins parce que l'armée du salut, pour importante qu'elle soit dans le monde, n'a quand même pas le rayonnement de l'Église catholique. Mais finalement, c'est exactement le même type d'organisation. Et certains qu'au regard de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est éminemment discutable. D'ailleurs, dans les premiers temps, l'armée du salut, à cause, entre autres choses, à cause de cette structure-là, était considérée comme secte, avec son gourou. On ne parlait pas de gourou à cette époque-là, mais enfin, c'était un peu ça, n'est-ce pas? Et un des reproches que l'on faisait à l'armée du salut était précisément cette direction hiérarchique et qui concentrait tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Il est évident que nulle part dans la parole de Dieu, nous ne voyons une structure de ce type-là. Nous voyons au contraire toujours une structure collégiale. Le pouvoir est collégial. Le Seigneur sait que l'homme est faillible et que tout laisser reposer les décisions sur les épaules d'un seul homme, c'est prendre un risque incalculable. Alors, l'Église catholique a bien senti, n'est-ce pas, cette faille, et c'est pourquoi elle a publié le dogme de l'infaillibilité pontificale. L'armée du salut, que je sache, n'est jamais allée jusque-là. Mais finalement, c'est sous-jacent quand même, n'est-ce pas? Que, bon, à la limite, si vous voulez, si le général se trompe, on peut éventuellement le destituer. Enfin, la procédure pour le faire est assez complexe. Et alors donc, cette fameuse rencontre de janvier 1877 avait été minutieusement préparée parce que William Booth n'était pas suffisamment naïf pour penser que sa proposition allait passer sans opposition. Alors il avait soigneusement préparé ça et ça, il appelait ça la grande foire au salut. Alors c'était vraiment quelque chose qui avait des allures de kermesse, n'est-ce pas? Il y avait de la musique qui lui jouait dans tous les coins, n'est-ce pas? Il y avait toute une prédication émotive, vivante. Les prédicateurs avaient des attitudes, des tenues plus ou moins excentriques d'ailleurs, parfois même des propos vulgaires. C'était assez courant d'ailleurs dans les réunions de l'armée du salut. Pour se mettre à la portée du peuple, on n'hésitait pas à employer un langage quand même qui était aussi pas mal discutable, il faut bien le reconnaître. Et donc, cette conférence de 1877 a adopté une nouvelle orientation. Ce n'était pas encore la révolution totale, mais c'était une orientation vers cette révolution-là. Et pour la première fois, William Booth a employé le mot armée, Salvation Army, armée du salut. Les conférences annuelles à l'ancienne mode avaient vécu. À la place, on avait créé un conseil de guerre composé d'officiers qui entouraient le commandant suprême. Et finalement, le commandant suprême était celui qui prenait les décisions finales. L'évolution avait été progressive, mais très vite aussi, un vocabulaire militaire était entré dans l'organisation. Et l'année suivante, la conférence qui se rassemblait autour de ce conseil de guerre, n'est-ce pas, comme on l'appelait maintenant, en 1878, a renouvelé ce qui s'était produit l'année précédente, on appelait la grande foire au salut, c'était le mot qu'ils employaient, n'est-ce pas. C'était vraiment la foire, ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Et là, il y avait des manifestations aussi charismatiques, de véritables manifestations charismatiques. Et cette conférence de 1878 a décidé la création de petites fraternités de prière dans les quartiers malfamés, pour lutter justement contre l'immoralité, le péché, l'alcoolisme et tout ce qu'on voudra. Et le modèle qui avait servi à William Booth, c'est très intéressant, c'était celui des moines irlandais. Il avait repris cette organisation qui avait été celle de Saint-Patrick en son temps. C'était l'époque où Gypsy Smith, le gitan, donc, s'était converti. Mais bon, très vite, comme on l'a vu là, il y a quelque temps de ça, il s'était séparé de l'organisation parce que justement, il avait du mal à suivre un peu cette foire de salut, cette militarisation du mouvement, etc. Et dans ces fraternités qui ont été créées, où on était exhorté par le commandant suprême, on ne l'appelait pas encore général à cette époque-là, si ce n'est en privé, son titre officiel était commandant suprême, ce n'était pas encore général, on était exhorté à avoir une attitude agressive, pas dans le sens de agressive vis-à-vis des gens, mais enfin, avoir une évangélisation agressive. Bon, certains ont tellement pris les choses au pied de la lettre qu'ils se sont retrouvés en prison. Plusieurs centaines de prédicateurs, cette année-là, se sont retrouvés en prison pour des périodes plus ou moins longues. Et finalement, c'était l'époque où il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui une reprise, après la crise économique qui avait suivi la guerre de sécession, on l'a vu la dernière fois. Les affaires ont repris et en même temps l'exploitation forcenée du prolétariat en dépit des lois protectrices du travail s'est à nouveau développée, notamment jusque dans l'année 1879. Et c'est cette année-là, en mai 1879, que le nom Armée du Salut, Salvation Army, a été adopté officiellement et déposé officiellement devant le gouvernement. Mais cette évolution n'a été publiée officiellement qu'en août de la même année. Et William Booth a substitué alors une organisation totalement militaire, en sorte que tous les pouvoirs étaient concentrés entre ses mains. Il a dissous le fameux conseil de guerre, il est resté seul dirigeant, n'est-ce pas ? Et il est allé encore plus loin que la papauté dans ce domaine-là, car la papauté a autour d'elle des cardinaux pour la conseiller, la fameuse curie romaine, n'est-ce pas ? William Booth n'avait même plus ça. Et pourtant, ce fameux congrès de 1879, la puissance de Dieu est descendue d'une manière très nette, avec des manifestations du Saint-Esprit absolument indiscutables. Et certains se mettaient à même, on avait des phénomènes un peu à la Toronto, n'est-ce pas ? Certains se mettaient à danser, ils appelaient ça être libre dans l'esprit, c'est exactement le vocabulaire qu'on trouve dans certains milieux pentecôtistes un peu extrémistes, et donc aussi aujourd'hui à Toronto. Et par conséquent, il y a eu ce fameux congrès, une nuit de prière qui rassemblait de 300 à 400 personnes, qui a été donc à laquelle se sont déversées une pluie de bénédictions, et les participants parlaient d'une orgie religieuse, d'une orgie spirituelle. Bon, les termes étaient certainement très très discutables. Certaines manifestations l'étaient aussi. Il y a eu des phénomènes un petit peu à la Toronto, c'est-à-dire des gens qui tombaient. Mais il y a eu aussi, manifestement, de la part de ceux qui ont participé à cette fameuse rencontre de 1879, d'authentiques manifestations du Saint-Esprit, des parlers en langue, des prophéties et des choses semblables. Et notamment, une accentuation très forte mise par le Saint-Esprit sur la mission. La nécessité d'avoir une vision au-delà des frontières d'Angleterre Et de ce fameux congrès de 1879 est sortie la décision de d'essaimer un peu partout, en Europe d'abord, d'où justement l'envoi d'Evangeline Bousse quelques années plus tard en France, mais aussi en Afrique et finalement dans le monde entier. Aujourd'hui, l'armée du salut se trouve à être représentée. Il y avait aussi les fameux rires, les saints rires, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui à la mode à Toronto. Bon, ça veut dire que, pour analyser un peu le phénomène, il y avait quelque chose qui était authentiquement de Dieu, puis il y avait des choses qui étaient humaines, quoi, psychiques, etc. Il y avait un mélange. Il y avait un mélange dans ce fameux réveil salutiste. Mais si vous voulez, ce qui a différencié le mouvement salutiste des mouvements torontistes modernes et choses semblables, c'est que on considérait ces phénomènes comme exceptionnels et comme relativement marginaux, et jamais on en a fait des réalités normatives que les gens étaient invités à rechercher. Pas même d'ailleurs les dons spirituels, les parler en langue et les manifestations prophétiques qui s'étaient manifestées à ce moment-là. C'est parce qu'on était dans une bénédiction spéciale de penser ce qui les dirigeants du mouvement, n'est-ce pas, que précisément il y avait eu ces manifestations exceptionnelles et extraordinaires du Saint-Esprit. Par contre, ce qui restait très haut, n'est-ce pas, c'était l'enthousiasme. William Booth insistait sur la nécessité d'être enthousiaste. Et donc, le congrès de 1879 avait élaboré un drapeau. Il y avait un drapeau sang et feu, n'est-ce pas, qui était un drapeau rouge qui représentait le sang de Jésus. Il y avait aussi une inscription en bleu qui représentait l'unité du peuple de Dieu. Et puis un soleil d'or au centre du drapeau qui représentait le soleil de la vie surmonté d'une couronne, qui était la couronne du Christ, n'est-ce pas, rappelant que le Seigneur était celui qui régnait. Et puis il y avait une étoile jaune qui représentait le Saint-Esprit, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, le drapeau a été accueilli avec un enthousiasme délirant, n'est-ce pas? Ça a donné lieu à une procession autour du drapeau. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'uniforme, c'est plus tard qu'est venu l'uniforme. Alors, le défilé autour du drapeau se faisait avec des redingotes. Et puis, un certain Bacon, qui était un des officiers de l'armée du salut, nouvellement créé, a composé un hymne, n'est-ce pas? L'hymne de l'armée du salut, le cri de guerre, le chant de guerre de l'armée du salut. Et les gens qui ont vu cette procession ont commencé à parler des salvationistes, des salutistes. Le nom était donné, n'est-ce pas? C'était pas un nom qu'ils avaient choisi, c'est un nom qui leur a été donné, comme c'est souvent le cas en pareille matière. Et puis finalement, qu'ils ont adopté. D'ailleurs, l'année suivante, ils ont publié le journal du mouvement qui s'est appelé The Salvationist, le salutiste. Enfin, à cette époque-là, William Booth avait 50 ans. Enfin, et William Booth a demandé que l'on ait de nouvelles audaces, toujours des nouvelles audaces, l'enthousiasme. Alors il fallait défiler pour montrer que la vie chrétienne était quelque chose de joyeux. Alors on était invité à donner les manifestations les plus extérieures et les plus tapageuses de la joie, d'où justement des espèces de tressautements, des danses, etc., pour montrer que quand on était rempli de l'Esprit de Dieu, on était joyeux. Je pense que certains devaient un petit peu en rajouter d'ailleurs. Mais enfin, c'était ça. Toujours, toujours de l'avant d'ailleurs, après The Salvationist, en France en tout cas, quand il a été publié, c'est appelé En Avant. C'est toujours d'ailleurs le nom, je crois que c'est toujours le nom officiel du journal de l'armée du salut. Alors il fallait toujours aller de l'avant, toujours en avant. Et William Booth avait repris la devise de François d'Assise, d'ailleurs avec lequel il avait de nombreuses affinités, entre parenthèses, n'est-ce pas? C'est qu'une armée joyeuse est une armée victorieuse. Alors, bon, il fallait donc être joyeux. Alors, ces nouvelles audaces ont produit souvent, il faut bien le dire, des imprudences, des extravagances. Et ensuite, William Booth est allé jusqu'à parler de carnaval de sainteté. Bon, je crois que on n'a pas encore vu ça dans les mouvements modernes, ça risque d'arriver. Et dans les réunions qu'il y avait à ce moment-là, il y avait aussi des chants en langue. Ça, c'est quelque chose aussi qui est à noter. Surtout dans le pays de Galles, où la musique a toujours eu une très très grande importance. Évidemment, l'armée du salut a réussi à être à la une des journaux. Finalement, tout le monde parlait de cette cette armée étonnante, extravagante, ce carnaval de sainteté, et dans les bistrots les plus mal famés, n'est-ce pas, on parlait de l'armée du salut. Bon. Alors, on a continué avec les meetings de masse, les manifestations, des processions, des marches de louanges, notamment à l'occasion de la création de nouvelles unités. Alors, on était organisés, c'était militaire, quoi, chacun avait des grades. Alors, il y avait, je sais pas moi, la compagnie un tel qui était stationnée à tel endroit, à tel poste. On n'appelait pas ça des églises, on appelait ça des postes militaires, c'est pas. Alors, l'unité en question, au garde à vous, pas cadencé, recevait officiellement le drapeau. Alors, les remises de drapeaux aux unités, c'était toujours des occasions de, comment dirais-je, de folklore assez haut en couleur, faut bien le reconnaître. Alors, Willamouss a créé une fanfare militaire, composée uniquement de cuivre et qui jouait des marches militaires, très martiales, n'est-ce pas? Et il avait remarqué que la musique avait un pouvoir sur les êtres, alors il utilisait beaucoup la musique. Et soit dit en passant, le mouvement salutiste a beaucoup axé justement sur les fanfares, et les fanfares de l'armée du salut ont atteint un très haut niveau au point de vue musical. J'ai eu l'occasion d'en entendre encore dernièrement, aux dernières rencontres de la Fédération protestante qui s'est tenue chez les salutistes, et certain que la fanfare qui est intervenue, c'était pas le gros zimbamboum, c'était vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Hein. Et quand j'ai assisté il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, quand j'étais en Angleterre, à des défilés de l'armée du salut, alors les grandes fanfares de l'armée du salut, de plusieurs centaines d'hommes et de femmes, hein, qui défilaient au pas cadencé et qui jouaient des choses, dans des cantiques parmi ceux qu'on connaît d'ailleurs, mais vraiment, au point de vue qualité musicale, c'est assez remarquable. C'est assez remarquable. Au début du temps où Willambus, ça devait l'être un peu moins, parce que c'était vraiment l'enthousiasme qui parfois prenait la place de la compétence, mais enfin, c'était quand même. Alors, le 16 janvier 1880 a eu lieu donc un nouveau congrès de la nouvelle armée, et là on a décidé d'adopter un uniforme. Alors, un uniforme bleu sombre avec SS, je ne sais plus à quoi ça correspond. Il n'y avait pas eu les fameux SS d'Hitler à l'époque, si bien que ça ne gênait pas. Et j'ai remarqué que les salutistes actuels ont encore les deux lettres SS de chaque côté du col. Je ne sais pas à quoi ça correspond d'ailleurs.
Il y avait 3S aussi, il y avait salut.
Oui, non, c'est encore autre chose, je crois. Je crois que c'est encore autre chose là. C'est encore autre chose. Et alors, ils sont. La générale a arboré pour la première fois le chapeau Alléluia. Alors, qui était le. Ah oui, ils avaient même créé un chapeau pour les femmes. Alors, les hommes étaient en casquette avec un superbe liseré rouge, avec le fameux soleil avec la couronne, n'est-ce pas? Et puis les insignes du grade dessus, n'est-ce pas? Et alors, les femmes avaient un superbe chapeau, comme on en avait à l'époque victorienne, quoi, le chapeau victorien, avec des jolis rubans qui tombaient de chaque côté, rouge, bien entendu, couleur sang. Et puis, ce chapeau Alléluia, qui était assez folklorique dans le contexte un petit peu moderne, a été remplacé par un chapeau plus sobre il y a 2 ou 3 ans. Quand l'armée du salut est entrée en fédération protestante, j'ai vu que ces dames avaient délaissé l'ineffable chapeau Alléluia pour prendre quelque chose de beaucoup plus, un petit peu à la manière des aubergines. Vous savez qu'on appelle les aubergines les femmes policières à Paris, quoi. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est déjà plus acceptable. Alors, Willambus s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a créé une école militaire pour la formation des officiers, c'est-à-dire une espèce d'école biblique, si vous voulez, mais avec une discipline vraiment militaire, un petit peu à la manière d'Ignace de Loyola et des Jésuites. Voyez-vous, c'était très éclectique. D'un côté, il y avait les moines irlandais, il y avait saint François d'Assise, et puis il y avait même Ignace de Loyola. Alors, il y avait un peu ça, c'est pas les exercices spirituels qui étaient repris un peu d'Ignace de Loyola. Et Willambus a quand même été assez intelligent pour interdire à son armée la moindre polémique avec qui que ce soit. Alors, il y avait des sanctions, bien entendu, comme dans une armée. On pouvait être cassé, alors on montait en grade, ou au contraire, on pouvait être cassé si jamais on faisait des erreurs. Et alors, ceux qui étaient pris à polémiquer pouvaient connaître alors des rétrogradations extrêmement rapides. Alors, un autre problème est apparu dans ces années-là, c'est la question des sacrements, c'est-à-dire la question du baptême et de la Sainte-Cène. Ça, c'était source de difficultés sérieuses. Beaucoup de ces gens venaient de différentes églises. Et il y avait à la fois des pédobaptistes et des baptistes. Il y avait également, sur le plan de la Sainte-Seine, des visions différentes, des gens qui étaient plus proches de la vision luthérienne, voire même catholique. C'était l'époque aussi où le catholicisme faisait une percée en Angleterre, le cardinal Newman. Et par conséquent, ces questions ont été débattues et ont menacé pratiquement l'unité du mouvement. Alors William Booth, qui était un homme expéditif, a pris une décision, il dit « bon ben, on supprime les sacrements, il n'y aura pas de sacrements, interdiction à tous les membres de l'armée du salut d'être baptisés et de participer à la Sainte-Seine dans quelque église que ce soit ». Bon, cette position s'est un peu assouplie, notamment depuis l'époque où l'armée du salut est entrée dans la fédération protestante, où une des conditions c'est qu'on puisse prendre l'intercommunion, mais déjà une vingtaine d'années en arrière que déjà les salutistes prenaient la Sainte-Seine quand ils étaient dans des églises où l'on prenait la Sainte-Seine, qu'ils participaient à des cultes où on prenait la Sainte-Seine, ils la prenaient, et même certains d'entre eux n'hésitaient pas à présider un service de Sainte-Seine. Donc ça avait pas mal évolué. Mais à l'époque de William Booth, c'était absolument draconien, interdiction de participer à tous les sacrements. Ce qui est d'ailleurs à noter, c'est souvent quand les catholiques me disent « mais alors, vous ne reconnaissez pas notre baptême, etc. », je leur dis « bien, il y a eu jusqu'à peu dans le mouvement protestant des organisations qui n'acceptaient aucun sacrement et qui pourtant reconnaissaient qu'on pouvait être chrétien, étaient eux-mêmes se proclamer, se disaient bien haut eux-mêmes chrétiens. Bon, alors ça, c'est une chose importante. Alors, deux autres créations du général. Après avoir créé une école de guerre, il a créé une école de cadets pour les enfants, alors pour en préparer à faire des futurs officiers. C'était la coutume dans toutes les armées du monde à ce moment-là. Il y avait des enfants de troupes, c'est pas bon. Bah alors il a créé des enfants de troupes aussi salutistes. Et puis ça n'a pas duré longtemps, malheureusement pour lui, c'était un peu quand même excessif. Et toutes ces excentricités ont fini par finalement aussi provoquer un certain nombre de critiques et d'attaques contre les salutistes, au sens parfois d'ailleurs physique du terme. Alors William Booth n'a pas accepté d'être freiné dans son évolution, c'était un homme qui ne supportait pas l'opposition, et en août 1880, et il s'est payé le culot, il est allé directement prendre la parole dans la convention Wesleyan, de l'église Wesleyan, qui était son ancienne église, où il est allé plaider la cause de l'armée du salut, parce qu'un certain nombre d'attaques venaient de là. Ça n'a pas empêché les persécutions de s'accentuer, et souvent les défilés de l'armée du salut à cette époque-là étaient escortés par une nuée de gamins, qui leur lançaient des colibés, dont la plus fréquente était celle-ci, armée de squelettes. Peut-être qu'à cette époque-là, vivant un peu à la Spartiate, beaucoup d'officiers et d'officières n'étaient pas très gros. Et on en est arrivé à des attaques physiques, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des morts et des blessés. Et parfois, plusieurs centaines de blessés dans des échauffourées qui ont eu lieu, n'est-ce pas ? Non pas que les salutistes étaient violents, mais tout simplement parce qu'on usait de violence contre eux. Mais le plus souvent, c'était quand même des diffamations. C'était des agressions verbales. Et même un homme comme Lord Shaftesbury, qui était un chrétien, un homme politique, mais un chrétien engagé, a attaqué l'armée du salut, trouvant que là, ils en faisaient quand même un peu trop, quoi. Et William Booth n'en avait cure. Et pour lui, il estimait la tristesse diabolique. Il n'acceptait pas que qui que ce soit montre des signes de tristesse. Alors, il fallait toujours avoir un sourire. Bon, je me souviens, c'était resté encore en Angleterre quand j'y étais il y a 30 ans. Et je me souviendrai d'une fameuse réunion de plein air que nous avions à la manière des salutistes et des Wesleyens, parce que c'était une tradition qui s'était instaurée dans tous les mouvements évangéliques à cette période-là. Et à l'école biblique, par tous les temps que Dieu faisait, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il gèle, le mercredi après-midi, on sortait faire des réunions de plein air avec un truc, un micro portable, n'est-ce pas ? Et je me souviens d'une soirée, d'une après-midi, il faisait alors un froid à geler sur place, n'est-ce pas ? Pas un chat dehors, mais pas un, n'est-ce pas ? On était les seuls dans la rue, tant ils nous égosillaient, les rares passants qui étaient là se hâtaient de se mettre au chaud, donc moi j'étais là, frigorifié, figé, glacé, etc. Alors, un des professeurs on était plusieurs équipes dispersées dans Londres. Alors, les professeurs faisaient le tour pour voir si tout se passait bien. À un moment, on me voit, je devais avoir une tête certainement pas trop réjouie, j'imagine. Puisque, souris, qu'il me dit. Alors, j'ai essayé de grimacer un sourire glacé, mais j'avais pas envie de rire, autant vous dire. Alors, je pense qu'il devait y avoir un peu de ça quand même. La tristesse est diabolique, n'est-ce pas? Enfin, quand vous avez froid, c'est certain que vous n'avez pas tellement envie de rire. Surtout que là, c'était, encore une fois, c'était pas grand monde à évangéliser. Bon, passons. Alors, l'expansion mondiale a commencé à partir de 1880. Et William Booth a repris la devise de Wesley, « Le monde est ma paroisse ». Alors, il a commencé par envoyer des officiers et soldats à Philadelphie, où l'œuvre a commencé. 7 ans plus tard, William Booth est allé lui-même visiter les États-Unis. Puis ensuite, l'Australie, c'était son deuxième objectif. Evangeline Booth a débarqué en France le 26 janvier 1881. Puis de là, elle est passée en Suisse romande, puis enfin en Suisse alémanique. D'autres soldats et officiers ont été envoyés au Canada, en Inde, en Afrique du Sud. Et finalement, l'armée du salut s'est toujours défendue d'être une église, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'était d'ailleurs l'explication qu'ils donnaient quand on leur demandait « Pourquoi vous rejetez les sacrements ?» Ils disaient « Parce que nous ne sommes pas une église. Nous sommes un mouvement d'évangélisation, nous sommes une armée. » Mais nous n'avons pas à nous substituer aux églises, nous voulons travailler avec les églises. Alors, se sont ouverts un peu partout des postes, c'était le mot qu'ils emploient, ils refusent de parler d'église, n'est-ce pas ? Ce sont des postes, comme on a des postes avancés dans l'armée, n'est-ce pas ? Et les pasteurs, en quelque sorte, sont les chefs de poste. Alors, ils ont des soldats sous leurs ordres, des soldats, ce sont ceux qui se sont convertis, mais qui, en quelque sorte, ne sont pas à plein temps dans le travail, quoi. Alors, ils ont des uniformes, et le soir, après leur travail, eh bien, ils revêtent l'uniforme, et puis ils vont défiler, ils vont distribuer des tracts, ils vont s'occuper des clochards, etc., parce que l'armée du salut a toujours gardé, comme disait Patrick tout à l'heure, les 3 S, soupe, savon, salut, et par conséquent, a mis l'accent énormément sur les œuvres sociales jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire aujourd'hui que la critique qu'on pourrait adresser à nos frères, lesquels on a beaucoup de respect, d'admiration, en soi, mais enfin, ils ne sont pas au-delà, ils ne sont pas infaillibles, bien sûr, comme personne d'entre nous, c'est que le zèle, comment dirais-je, spirituel, parfois un peu tendance à diminuer depuis l'époque de William Booth, et finalement, l'aspect social a tendance à prendre un peu trop le dessus par rapport à l'évangélisation proprement dite. C'est pas l'aspect œuvre sociale qui est bonne, qui est utile, bien sûr, c'est pas le problème, mais William Booth avait toujours veillé à ce que les deux choses aillent de pair. Parfois, aujourd'hui, parfois, c'est pas dans certains milieux, ça s'estompe un peu, le côté spirituel, l'aspect évangélisation. À cette époque-là, l'armée du salut avait aussi tout un travail important d'évangélisation. Notamment, William Booth avait institué le banc des pénitents, c'est-à-dire que le premier banc dans les postes de l'armée du salut n'était pas occupé. Le premier banc, il devait rester vide. Et à la fin de la réunion, le prédicateur faisait un appel et inviter ceux qui se reconnaissaient pécheurs à venir s'asseoir sur le banc, sur le premier banc, devant tout le monde, c'est-à-dire s'humilier publiquement. C'était une excellente chose, une excellente vision, n'est-ce pas ? Et ensuite, eh bien, les officiers de l'armée venaient prier avec eux, venaient les conseiller, venaient, etc., faire la cure d'âme avec eux, ce qui était nécessaire. C'est encore aujourd'hui la règle dans les postes de l'armée du salut, comme ils s'appellent, n'est-ce pas ? Et beaucoup se sont convertis par ce moyen-là, n'est-ce pas ? Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire de l'armée du salut. William Booth a continué jusqu'à son dernier souffle, n'est-ce pas ? C'est un homme super actif, il est mort très âgé, Et donc, ses enfants ont repris la relève après lui. Ils sont restés pendant tout un temps. L'armée du salut est devenue une espèce de dynastie William Booth. Aujourd'hui, bon, bah, la dynastie s'est éteinte quand même, n'est-ce pas? Et si je ne m'abuse, c'est une femme aujourd'hui qui est générale, n'est-ce pas? D'ailleurs, certains même, membres de la famille Booth avaient eu le titre de maréchaux. Un bâton de maréchage. Je me demande, c'est pas Evangeline Booth qui était devenue aussi maréchale à la fin de sa vie, n'est-ce pas? C'était plus un titre honorifique, d'ailleurs, certainement qu'elle était déjà en quasi-retraite quand elle a reçu le titre de maréchal. Actuellement, donc, c'est une Australienne, si je ne m'abuse, qui est générale de l'armée du salut mondial, n'est-ce pas? Alors, l'armée du salut est dirigée, donc, depuis le centre mondial, qui est à Londres, d'ailleurs. Elle a dû quitter l'Australie, cette dame, pour venir s'installer à Londres. Et il y a un chef de territoire pour chaque pays. Alors, je ne sais plus quel est le nom du chef de territoire actuel pour ce qui est de la France. C'est un colonel, j'ai rencontré, il est celui qui représente l'armée aux réunions de la Fédération protestante, mais son nom m'échappe, peu importe, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il y a des chefs de district, il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de poste, enfin, il y a toute une hiérarchie qui correspond à des grades, qui sont ceux de l'armée britannique, d'ailleurs, qui ne correspondent pas du tout aux grades que l'on a dans l'armée française. Il y a des commissaires, je ne sais pas à quoi ça correspond en français, il y a des majors, etc. Voilà, en gros, si vous voulez comment. Puis alors ensuite, vous pouvez avoir des sous-officiers qui sont alors, eux, des gens qui ne sont pas à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Puis alors, il y a le simple soldat, le militant de base, ce qu'on appellerait aujourd'hui le chrétien de base, qui distribue des tracts, qui témoigne, et puis qui assiste aux réunions. Voilà, en gros, si vous voulez, comment est organisée l'armée du salut. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement sur l'armée du salut avant que nous engagions une autre réflexion?
Comment est-ce situé par rapport à l'Église?
À côté de l'Église. Ils n'ont jamais voulu, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne se veulent pas une Église. Mais une œuvre de l'Église, quoi, qui est à côté de l'Église et qui est là au service de l'Église, quoi. Ils se veulent au service de l'Église. En fait, dans la réalité, c'est une Église, hein, et qu'ils le veuillent ou non, ils ont des gens qui viennent régulièrement à leurs réunions, ils ont des... Bon, ce qu'ils appellent les postes, c'est des églises locales, quoi. C'est des... Les chefs de poste sont des pasteurs. Finalement...
Ah, c'est quand même ça, quoi.
Ah oui, c'est sûr, c'est une... Mais ils ont toujours l'uniforme, ils ont toujours les défilés. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que au moment de au siècle dernier, surtout en France, ils étaient considérés comme le type même de la secte. Hein. Au siècle dernier et même au début du siècle, quand on parlait secte, hop, on pensait armée du salut, comme aujourd'hui on pense témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, l'armée du salut dans le monde entier, y compris en France, est considérée comme quelque chose de tout à fait respectable. Les pouvoirs publics, tout ça, considèrent que l'armée du salut est quelque chose de tout à fait valable. Bon, il faut dire qu'ils ont pas mal mis d'eau dans leur vin aussi au sujet des excentricités qui marquaient les premiers temps. Bon, il y a le petit aspect folklorique qui amuse un peu aujourd'hui, mais qui ne choque plus, quoi. Hein. Et à Paris, on est habitué à voir, à la période de Noël, mais ils vont commencer maintenant l'opération Marmite. Ils ont au bouge des métros, à Lille, vous verrez peut-être ça si vous allez aussi, j'en ai vu à Lille en son temps, des marmites, il y a 3-4 officiers en uniforme qui jouent des cantiques de Noël autour de la marmite, et les gens sont invités à mettre de l'argent dans la marmite pour aider au Noël des clochards, quoi, des choses comme ça, quoi. Alors, bon, bah c'est bien vu, c'est bien coté, et c'est le côté action sociale qui a dédouané l'armée du salut. C'est surtout leur engagement auprès des plus pauvres, notamment des clochards. Et par exemple, à Paris, ils ont développé toute une action importante au niveau justement de l'aide aux clochards, les soupes de nuit, avec les simples soldats, ils vont avec des voitures la nuit sur les bouches des métros, partout où il y a des clochards, leur servir un bol de soupe, quoi. Alors, ils ont des centres d'accueil pour les clochards. Un clochard qui a froid, par exemple, ou qui voudrait s'en sortir peut venir. Il est hébergé. Alors, on commence par le laver les pieds à la tête. Ça, c'est la première chose. Soupe, savon. Soupe d'abord, puis ensuite savon. Là, c'est pas question de l'accueillir comme ça, crasseux, pouilleux, etc. Et puis ensuite, bon, ben, s'il veut, il peut venir écouter l'Évangile, quoi. Alors, il y a la fameuse péniche de l'armée du salut. Ils ont une péniche qui est amarrée, je ne sais plus où, sur un des quais de la Seine, là. Et là, alors, ils accueillent les clochards pour une nuit, je crois qu'il y a un tour de rôle, parce que le nombre des places sont limitées. Alors, ceux qui se travaillent dans ces choses-là font un travail remarquable. Ça, on peut leur tirer le chapeau bas parce qu'ils travaillent dans des conditions terribles. Et tous les matins, dans la péniche de la Manistagne, il faut qu'ils viennent laver les lits au jet. Il y en a qui défèquent sous eux, qui vomissent, des gens qui sont sous, etc. Alors, il faut tout laver de A jusqu'à Z. Alors, ils travaillent, ils ont des postes d'évangélisation dans les quartiers les plus malfamés, les plus... Alors, ils ont aussi des travaux de relèvement des drogués, des prostituées. Ils font un très, très beau travail. Les officiers de l'armée du salut font un très, très beau travail de relèvement de prostituées. Ils vont à Pigalle, là, en uniforme, au milieu des prostituées de Pigalle et tout, les interpeller, etc. Là, c'est quand même, ils font du travail, hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Ils aident les femmes battues, les femmes abandonnées par leur mari, les héberges, etc. Enfin, le travail social est tout à fait valable. Alors ça fait que maintenant ils ont vraiment pignon sur rue, hein, très très tout à fait valable.
Il y avait une expérience charismatique, mais pas d'enseignement.
Ah non, aujourd'hui en principe ils sont pas charismatiques. Ils n'ont pas cette dimension-là. Encore que il y a à titre individuel certains le sont. J'en ai connu, mais officiellement, non, il n'y a pas la dimension charismatique dans le mouvement en tant que tel. Ils ne sont pas contre pour individuellement, à condition que les gens gardent un peu ça pour eux, quoi. Que leurs gens gardent un peu ça pour eux.
Pas de sacrement, mais vis-à-vis le mariage.
Ah, le mariage n'est pas un sacrement, quelle hérésie énorme! Énorme hérésie! Oh là là, on va te brûler! Non, le mariage, c'est pas un sacrement. Le mariage est de l'ordre de la création et non pas de l'ordre de la révélation.
La terminologie catholique, on n'est pas dans l'ordre première. Quand on parle du baptême, ils appellent ça un sacrement.
Dans la théologie protestante, on parle de sacrement pour le baptême et la Sainte Cène. C'est le terme. Ça peut se discuter, de fait, je suis d'accord avec toi. Mais en principe, c'est dans la théologie protestante, de la plupart des églises, on emploie le mot sacrement, qui est un mot catholique au départ, c'est vrai. Et quand on parle sacrement en théologie protestante, on parle du baptême et de la Sainte Cène. Et là, justement, si tu veux, c'est important de que le mariage ne soit pas un sacrement, parce que à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui sont mariés civilement, ou ceux qui sont mariés à la gitane même, sont quand même mariés. Est considéré devant Dieu. Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Parce qu'autrement, à partir du moment où on pose le mariage sacrement, à la limite, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas été marié religieusement n'est pas considéré comme marié, donc peut se démarier, etc. Quoi. Alors ça va très loin. Ça va très loin. C'est pour ça que il est important de préciser que le mariage n'est pas un sacrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je préside un mariage, je ne dis pas que ce n'est pas un sacrement, parce que je ne veux pas choquer les catholiques qui sont là, mais je précise toujours, ou presque toujours du moins, ceci, c'est que nous ne marions pas les gens. Les gens se marient, et ce que nous faisons, nous demandons la bénédiction de Dieu sur des gens qui se marient. Ça veut dire se marier, qui échange une promesse de se prendre l'un pour l'autre comme époux, et ensuite je ne dis jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne dis jamais après l'engagement, je vous déclare unis par les liens du mariage, mais nous sommes témoins de votre mariage. Vous êtes mariés, nous en sommes témoins. C'est très attention à la terminologie. Hein.
Quelle était exactement sa démarche pour justement éliminer les sacrements?
Bon, c'est parce que ça posait problème. Ça posait problème dans l'armée du salut.
Oui, mais sa réflexion...
On n'est pas une église, donc on n'a pas à pratiquer les actes d'église, quoi. Mais c'était un prétexte. Ouais. Il ne voulait plus des sacrements, quoi. Il ne voulait pas de ce qui pouvait, en quelque sorte, poser problème et empêcher le développement de l'œuvre. Ça empêche le déploiement de l'œuvre. Hop, on l'élimine. Ça, c'était un homme expéditif, ça... Ouais. D'une réflexion théologique qui parfois était quand même un peu juste, hein, faut bien reconnaître. Hein.
C'était son autorité contre l'autorité de la Bible, en fait,
Comme il avait fait pour la prédication des femmes, hein. Oui, c'était pareil. Hein. Ah, c'était pareil.
C'est-à-dire qu'au départ, normalement, ceux qui se convertissaient étaient plutôt renvoyés dans des églises, ou comment ça se passait ?
On a vu qu'il avait essayé de faire ça au début, ça n'avait pas marché. Mmh. Ça n'avait pas marché, non.
Donc il avait. Comment se dire, il les invitait pas spécialement à.
Après, il les a pu inviter à aller dans des autres églises, non. Mmh. Il a créé. Enfin, bon, ils ont créé des églises, quoi. Mmh. Ils n'ont pas voulu dire le nom, mais c'était des églises, pas de problème. Ça, c'est pas de problème.
Donc ces gens-là sont pas baptisés,
là ? Non. Non. Ils ne sont pas baptisés, en principe, non. Alors ça, c'est très intéressant, c'est très important. Parce que vis-à-vis, quand les catholiques nous accusent, disant « Vous ne reconnaissez pas notre baptême, donc vous ne nous reconnaissez pas comme chrétiens. » Ça, c'est toujours l'argumentation. Et non, parce que pour nous, le baptême n'est pas indispensable pour être chrétien. La preuve, nous avons au milieu de nous des gens qui sont membres de la Fédération protestante officiellement et qui ne sont pas baptisés, qui rejettent le baptême, toute forme de baptême, quelle qu'elle soit. Et qui se considèrent comme chrétiens, que nous considérons comme chrétiens, et qui considèrent les autres comme chrétiens. Bon, on a un petit quart d'heure, on va commencer un autre chapitre, si vous voulez. Le réveil des frères de Plymouth. Alors, ce réveil des frères de Plymouth est à mettre en relation avec l'évolution dans l'Église anglicane. L'évolution dans l'Église anglicane au XIXe siècle était double. D'une part, il y avait toute une partie de l'Église anglicane qu'on appelait là-bas l'Église d'Angleterre, qui était très influencée par les mouvements revivalistes et qui était très proche d'eux. De telle sorte que, petit à petit, cette fraction de l'Église anglicane avait abandonné beaucoup de la pompe et du cérémonial figé, guindé, qui était celui de l'Église d'Angleterre. Et finalement, on avait vu chez ces gens-là un peu des manifestations qui ressemblaient à ce qu'il y avait dans le réveil salutiste dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et en réaction contre cette espèce de, pourrait-on dire, de prolétarisation de l'Église. Par rapport à cette évolution de toute une fraction de l'Église, et a voulu revenir, au contraire, réaffirmer la pompe, le cérémonial, la liturgie, les costumes sacerdotaux, etc. Et alors, il y a eu une espèce, non pas un schisme, ce serait aller beaucoup trop loin, mais enfin, une espèce de clivage qui s'est fait au sein même de l'Église d'Angleterre, quand l'on a appelé « High Church and Low Church ». Haute Église et Basse Église. La Basse Église, c'était un peu péjoratif d'ailleurs de parler de Basse Église, c'était justement la fraction évangélique de l'Église anglicane. Donc proche de Wesley, proche des salutistes, proche des mouvements évangéliques d'une manière générale. Et puis, en opposition à la Basse Église, il y avait la High Church, la Haute Église, qui était l'Église traditionnelle. Et cette Église traditionnelle, parce que justement elle se sentait un petit peu aiguillonnée par la Basse Église, a durci ses positions à cette période-là. Et durci ses positions de telle manière que elle s'est rapprochée de l'Église catholique. L'Église catholique était ultra minoritaire en Angleterre, mais qui elle aussi connaissait un renouveau, on verra ça quand on étudiera justement l'Église catholique au XIXe siècle. Le XIXe siècle a été une période de renouveau de l'Église catholique. Pas toujours dans le bon sens, mais il y a eu un renouveau indiscutable. Et pour un certain nombre d'anglicans de la High Church, l'Église catholique est redevenue attractive, alors qu'elle était plutôt un pôle répulsif jusqu'alors. Elle est redevenue attractive. Et notamment, n'est-ce pas, a éclaté dans Low Church, alors la Basse Église, dans les années 1800 à 1882, un mouvement de réveil. Un mouvement de réveil qui s'est fait autour de deux choses. D'une part, de groupes d'études bibliques qui ont commencé en Irlande et puis qui se sont répandus notamment dans la région de Plymouth, d'où le nom de frères de Plymouth que l'on a donné à ce mouvement, c'est-à-dire dans le sud de l'Angleterre. Et un certain nombre de ce qu'on appelait des prêtres, dans l'Église anglicane, on les appelle des prêtres, n'est-ce pas ? Prêtres anglicans ont été touchés par ce mouvement. Puis ensuite, il y a eu un autre aspect, n'est-ce pas ? C'est l'aspect justement œuvre sociale, qui avait déjà été souligné également par William Booth, et qu'un certain nombre de gens dans l'Église anglicane ont redécouvert également. Et, de telle sorte que ce mouvement a amené une espèce de réveil au sein de l'Église anglicane elle-même. Et ce réveil a eu aussi une dimension, on pourrait dire, un peu mystique. Par exemple, j'ai toujours été frappé de voir comment Madame Guyon avait toujours eu la cote dans les milieux anglo-saxons jusqu'à nos jours. Encore l'an dernier, quand je me trouvais en Israël, fouinant, comme je le fais toujours chaque fois que j'en ai l'occasion, dans une librairie évangélique de Jérusalem, j'ai trouvé alors les œuvres de Madame Guyon en bonne place, n'est-ce pas, des études sur les œuvres de Madame Guyon, c'est assez étonnant, n'est-ce pas. Et c'est vrai que dans le tempérament anglo-saxon, que l'on pense être parfois un tempérament très, très réservé, très flegmatique, vous savez, l'anglais flegmatique, à la Phileas Fogg, là, qu'avait caricaturé un peu Jules Verne dans son roman. Bon, c'est pas du tout ça. Il y a ce côté chez l'anglais, puis il y a un autre côté qui est tout à fait autre, qui peut être très exubérant, très démonstratif, et effectivement assez mystique. Et alors, ce mouvement mystique a éclaté dans l'Église d'Angleterre, parce que justement, on était dans une structure qui était quand même la structure d'une Église plutôt traditionnaliste. Et alors, au lieu de dériver dans un bon mysticisme, si vous voulez, à la manière évangélique, dans une recherche de la communion avec le Seigneur et tout, même s'il y avait parfois des excès, comme on le voit dans William Booth, mais enfin, bon. Alors là, on a petit à petit dérivé dans un type de piété de type catholique, par l'influence de Madame Guyon, de choses comme ça, et puis aussi parce que l'Église catholique, à cette période-là, connaissait ce renouveau mystique, elle aussi. Donc il y a eu conjonction, si vous voulez, d'une redécouverte du mysticisme qu'il y avait dans l'Église anglicane, High Church, et en même temps du renouveau mystique de toute une fraction de l'Église catholique du XIXe siècle. Et alors finalement, des gens qui se trouvaient dans le mouvement justement de Plymouth, ont assez rapidement, parce que c'était des gens de la High Church, y compris des prêtres, se sont trouvés un peu gênés par certaines manifestations un peu exubérantes qu'il y avait justement dans ces milieux-là, y compris d'ailleurs des aspects franchement négatifs, par exemple de querelles internes et de choses comme ça dont nous allons abondamment parler. Vous allez voir que c'est pas triste, malheureusement, hein, plutôt aussi que c'est triste de voir justement dans quelle querelle ont sombré les évangéliques en Angleterre à cette période. Hein. Alors finalement, un certain nombre de gens se sont retirés, si vous voulez, se sont retirés de ce mouvement, et puis ont recherché ailleurs, et ailleurs c'était l'Église catholique. Et le 19e siècle a été l'âge d'or de l'Église catholique en Angleterre. Parmi les personnes qui ont fait cette démarche, on trouve d'une part John Nelson Darby, 1800-1882, qui était prêtre de l'Église anglicane et qui a été touché par le mouvement de Plymouth. Et finalement, dans cet aspect dont on ne faisait pas très bien la différence entre ce qui était mystique et ce qui était sentimental, d'ailleurs les salutistes non plus, ça c'est toujours le danger de tous les réveils, hein, Darby s'est mis à réfléchir sur la succession apostolique, la question de la succession apostolique, qui officiellement n'a jamais été remise en cause par l'Église anglicane. L'Église anglicane se veut encore dans le contexte de la succession apostolique telle que l'a définie l'Église catholique. Et il a réfléchi à cette question-là avec un de ses amis qui se nommait Newman, qui lui était aussi intégré pleinement dans le mouvement. Et puis finalement, les deux hommes sont arrivés à des conclusions radicalement opposées en ayant posé les mêmes questions et en ayant posé les mêmes problèmes. Newman a dit, bon, ben nous acceptons la tradition de la succession apostolique. Et si nous acceptons ça, nous les Anglicans, il faut que nous soyons conséquents. Il faut que nous allions au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, c'est reconnaître que la succession apostolique se trouve en plénitude dans l'Église romaine. Donc, reconnaître la primauté du pape et reconnaître que l'anglicanisme est un schisme par rapport à l'Église de Rome. Et Newman est allé à fond dans sa démarche et il est redevenu catholique. Alors vous pensez si ça a été un coup de tonnerre en Angleterre. Il a entraîné toute une fraction relativement importante de l'Église d'Angleterre dans sa démarche. Et il a tellement bien servi l'Église catholique, il a écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages pour justifier justement l'Église de Rome, qu'on l'a récompensé pour ses bons et loyaux services. Il a reçu sa juste récompense sous la forme d'un chapeau de cardinal. Il est devenu le cardinal Newman. N'est-ce pas ? Darby, lui, a suivi un itinéraire entièrement différent. Il a dit, nous ne pouvons pas reconnaître la primauté romaine. Et si nous ne pouvons pas reconnaître la primauté romaine, ça veut dire que nous ne pouvons pas non plus reconnaître la succession apostolique. Mais s'il n'y a pas de succession apostolique, parce que c'est dans une problématique ici d'église de ce type-là, si nous ne pouvons pas reconnaître la succession apostolique, nous ne pouvons pas reconnaître non plus l'Église. Et de fait, dit Darby, l'Église n'est plus une. Tu es bien obligé de l'admettre. L'Église catholique, l'Église anglicane, il y a les différentes églises protestantes, les orthodoxes, et les baptistes, il y a l'armée du salut, qui même s'il n'est pas une église, est quand même une émanation d'église. Et souvent, ces organisations sont en lutte les unes contre les autres. Mais c'est parce que tu as voulu ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que l'Église a fait faillite. Et c'est la conclusion à laquelle arrive Darby. Et finalement, l'Église a existé, oui. Elle a existé à l'âge apostolique. Et puis petit à petit, cette Église s'est ruinée. Et aujourd'hui, l'Église n'existe plus. Regardez très loin. Il n'y a plus d'Église aujourd'hui. Et pourquoi n'y a-t-il plus d'Église ? À cause du péché de l'homme, du péché des chrétiens. Alors, peut-on reconstruire une Église ? Ben, Darby dit, on a essayé. Luther a essayé. Les réformateurs ont essayé. Et finalement, ils n'ont jamais pu rallier tout le monde à leur cause. C'est-à-dire, ils ont échoué. Et pourquoi ont-ils échoué ? Et Darby est arrivé à ce qui est la base, la pierre angulaire de sa doctrine, mais qui est une doctrine éminemment discutable. Parce que Dieu ne rétablit jamais ce qui a été ruiné. Et par conséquent, quand le plan de Dieu a été ruiné par le péché de l'homme, et Darby montre comment pratiquement chaque fois que Dieu a construit quelque chose, Dieu a ruiné. Quand Dieu a créé le monde, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a tout ruiné par son péché. Alors Dieu a recommencé avec Noé, il a donné l'alliance de Noé, puis finalement, nouvel échec à la tour de Babel. Alors Dieu recommence avec Israël, avec Abraham. Il appelle Abraham, il crée le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ruine tout. Alors Dieu recommence avec l'Église, ce qu'il avait commencé avec Israël. Et à nouveau, dit Darby, le péché de l'homme ruine le plan de Dieu. Et chaque fois, dit Darby, chaque fois que le plan de Dieu est mis en échec par l'homme, Dieu ne recommence pas. Mais il crée quelque chose de nouveau. Qui à nouveau d'ailleurs va se trouver compromis par l'homme. Donc il dit, De la même manière que Dieu n'a pas rétabli l'ancien monde du Jardin d'Éden, de la même manière que Dieu n'a pas rétabli son alliance avec Noé quand les hommes de Babel l'ont détruite, de la même manière que Dieu n'a pas rétabli son alliance avec Israël, d'ailleurs là il y aurait beaucoup de choses à dire, et là il était en porte-à-faux totalement avec l'enseignement de Paul aux Romains, et bien de la même manière, Dieu ne rétablit pas son alliance avec l'Église. Donc, l'Église, terminée. Il n'y a plus d'église aujourd'hui et il n'y a plus d'espoir de voir ressurgir une église. Alors vous allez tout de suite m'objecter un texte biblique.
Tous les jours jusqu'à
la fin. Oui, non, encore il y en a un autre. Bon. On ne comprend pas qu'un homme qui se disait aussi proche de la Bible que l'était Darby ait pu ignorer un texte de ce type-là. Alors il dit, eh bien, justement, Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Puisque la dispensation de l'Église, il appelait ça des dispensations, d'où le mot de dispensationalisme, qui est le système de Darby, hein, la dispensation de l'innocence, le jardin d'Éden. Alors ensuite, je ne sais plus comment il appelait la deuxième, Noé. Ensuite, la dispensation de la loi avec Israël, la dispensation de la grâce avec l'Église. Et puis la dernière dispensation, qui est la dispensation de la fin, dans laquelle il entre, dans laquelle on entre. Et Darby était un homme qui avait une vision eschatologique très forte. On est dans les derniers temps. Et finalement, toutes les églises, qu'elles soient catholiques ou qu'elles soient n'importe quoi, sont la grande Babylone dont parle le livre de l'Apocalypse, puisqu'on est dans la dispensation de la fin. Et qu'est-ce qu'il est dit de la grande Babylone ? Sortez du milieu de mon peuple. Pour créer quoi ? Eh bien, le reste. Le reste dont parle le livre de l'Apocalypse. Les saints, les purs, etc. Ce qu'il appelle l'Assemblée. Sans imaginer un seul moment, d'ailleurs, qu'Église et Assemblée, ça veut dire exactement la même chose. Et finalement, il veut créer quelque chose qui est hors de l'Église, qui est différent de l'Église, et il recrée une Église. Il recrée une église. L'église d'Arbiste, qui existe jusqu'à nos jours, qui est une de plus. Mais pour lui, c'était plus une église. C'était le petit troupeau, l'assemblée du Seigneur. Et il fallait que les vrais chrétiens sortent de toutes les églises pour le rejoindre lui, quoi. Voilà. Hein? Alors, en quoi cette assemblée n'était pas une église ? Parce qu'elle était, il ne fallait absolument aucune organisation ecclésiastique. Pour lui, l'organisation ecclésiastique était contraire à la pensée de Dieu. Il avait été dans une église très organisée, l'église anglicane, High Church, et il basculait maintenant dans l'excès inverse. Plus d'organisation du tout. Alors, c'est l'assemblée, les gens se rassemblent d'une manière informelle. Il n'y a pas de pasteur, faut pas, ça n'existe plus, c'était pour un temps, c'était pour l'Église. Les ministères, c'est fini. Tout le monde est à l'égalité, tout le monde a un ministère, tout le monde peut intervenir. Alors si vous allez dans une église d'Arbiste, vous verrez au début de la réunion un des anciens qui se lève et qui dit « Est-ce que quelqu'un a quelque chose sur le cœur à apporter ?» Et n'importe qui va se lever et disserter sur n'importe quoi. Alors vous pensez bien qu'avec ça... l'unité de l'Église, n'en parlons pas, chacun ayant sa doctrine particulière, vous allez voir d'ailleurs ce que ça donne, ce genre de doctrine, quand on poursuivra justement notre étude. Donc, pas d'organisation ecclésiastique. Les chrétiens doivent sortir des églises pour s'organiser en attendant le retour prochain de Jésus. Et finalement, entre eux, on s'appelle les assemblées de frères. Comprenez les églises de frères. Alors le culte n'est présidé par personne, mais les femmes n'ont pas le droit de parler, comme c'est écrit. N'ont même pas le droit de prier, ce qui est contraire aussi, ce qui est excessif. Hein. Et puis surtout, alors on va voir ça la prochaine fois, Darby élabore un système d'excommunication tel que pratiquement à la fin de sa vie, il aura excommunié tout le monde, et il sera tout seul à faire partie de l'Église, il sera l'Église à lui tout seul. Bon, c'est caricatural ce que je dis là, mais finalement, c'est ce qui va se passer. Et on va voir la triste histoire, justement, du réveil de Plymouth, parce que finalement, c'est une triste histoire. Voilà, si vous avez des questions à poser là-dessus.
Pour lui, c'est un peu l'apostasie d'un moment entier, et juste vous considérez parmi les...
Voilà, c'était ça, c'était exactement ça. Une espèce de vision élitiste, n'est-ce pas, qui fait que, oui, elle est pure, quoi, c'est les purs, les vrais, etc., puis les autres sont la racaille, quoi. Ah oui.
Et Georges Muller
Georges Muller faisait partie, justement, des églises des frères de Plymouth. Et est arrivé un temps où Georges Muller ne pouvait plus supporter le rigorisme de Darby, et là, il s'est séparé. Et on va voir ça la prochaine fois, justement, c'est ça la triste histoire dont on va parler, justement, c'est que, finalement, il va y avoir une autre organisation qui va se créer, sous la direction de Georges Muller, ou sous l'impulsion de Georges Muller, du moins, qu'on appellera les Frères Larges, par opposition aux Frères Étroits, que sont les Darbistes. Alors, j'exagérais tout à l'heure, je caricaturais, je disais ça, c'était caricatural en disant qu'il restait tout seul à la fin de sa vie, Darby. Non, il n'était pas tout seul. Mais enfin, il avait excommunié tout le monde, dont Georges Muller, justement, hein, qui n'avait pas voulu se plier à ses diktats, parce qu'il n'y avait pas d'organisation soi-disant. Mais dans la réalité, c'était presque William Booth, Darby. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, excommuniés, sur des détails mineurs. Alors, la plupart des églises qui sont issues du réveil de Plymouth n'ont pas accepté cette espèce de mainmise terroriste de Darby, parce que c'était exactement ça, et donc se sont séparés. Et la plus grande partie des frères se sont regroupés dans ce qu'on appelle les frères larges. Et puis finalement, ceux qui sont restés fidèles à Darby envers et contre tout ont formé ce qu'on appelle les darbistes ou les frères étroits, par opposition aux frères larges. Ça existe encore aujourd'hui. Par exemple, en Suisse, alors là, vous avez des églises darbistes de la stricte obédience, parce que nous allons voir la prochaine fois que Darby est allé prêcher en Suisse, n'est-ce pas ? Et vous avez, mais la majorité des frères, ce qu'on appelle les frères aujourd'hui, qui sont les héritiers du réveil de Plymouth, appartiennent à ce qu'on appelle les frères larges. Et Georges Muller était de cela.
Ouais, c'est ça, donc après la ruine de l'église, Dieu a reconstruit avec cet homme-là.
Non, je pense qu'il n'allait pas jusque-là, se considérer à ce niveau-là, mais c'était son point, sa référence, c'était la Grande Babylone. Toutes les églises sont la Grande Babylone. Donc le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple.
Bon. Elle a trouvé, en fait, le problème de l'église, c'était jamais quelque chose, ça n'a jamais été une chose bonne, quoi.
Si, ça a été une bonne chose au début.
Au début.
Ouais. Mais elle s'est corrompue très vite, ouais. Et finalement, comme Dieu ne reconstruit pas ce qui a été ruiné, ça, c'est son postulat de base. Donc, il ne faut plus attendre d'Église. Hein? Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, les derniers temps, où de toute façon, l'Église est tellement morcelée qu'il y a rien à attendre, il faut sortir de toutes les Églises pour constituer des assemblées informelles de frères, où il n'y a pas d'organisation, où il n'y a pas de structure, où chacun, en quelque sorte, est là dans une situation d'attente en attendant que le Seigneur revienne, ce qui ne saurait tarder. Voilà, en gros, si tu veux, comment Darby voyait les choses.
Il ne peut pas être souvent des écrits de Paul.
Pardon ?
Parce que les écrits de Paul dans les épîtres, il ne peut pas souvent les lire.
Que si qu'il les lisait.
Je sais pas, il interprète ça.
Ah oui, alors ça, c'est sûr. Pour interpréter à sa façon.
Ah,
ça, c'est sûr.
C'est assez compréhensible.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, il avait ses interprétations. Et ses interprétations étaient plus importantes que l'écriture. Et le problème, non pas si tu n'étais pas d'accord avec la Bible, mais si tu n'étais pas d'accord avec l'interprétation qu'en donnait Darby. Alors là, tu étais excommunié sans appel, quoi.
Oui, les frères de Plymouth, c'est les frères en Christ.
Ça s'appelait Brethren.
Vous avez déjà étudié ça, je ne sais pas très bien. Vous avez déjà fait étudier ça, les frères de Plymouth?
C'est un phénomène du 19e. Ah, ouais. C'est un phénomène qui naît simplement au 19e siècle.
Ah, c'est les frères en Christ, quoi.
Frères en Christ, oui. Oui, oui. Ils s'appelaient les frères, les assemblées de frères. Ce n'était pas une église, c'était des frères qui avaient quitté les églises et qui se rassemblaient entre eux pour s'exhorter mutuellement, pour prier ensemble en attendant que le Seigneur revienne.
D'accord.
C'était tout. Le but était uniquement celui-là. Alors, il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'attendre le retour du Seigneur. Il n'y avait pas même évangélisé. Enfin, bon, pas quand même, mais enfin...
Ah,
mais c'est lui qui a... Si, justement. Mais si, c'est lui qui a donné le premier système eschatologique cohérent dans les milieux évangéliques. Or, aujourd'hui, tous les milieux évangéliques, y compris pentecôtistes, etc., sont héritiers peu ou prou du système mis au point par Darby. Ça, c'était un homme intelligent, ça, il faut lui rendre cette justice. Il avait un esprit très, très méthodique, etc. Bon, il a pas dit des choses qui étaient fausses, d'ailleurs, en tout, mais si tu veux, il a trop systématisé. Il a trop systématisé à cause, justement, de ces histoires de dispensation. Alors, ça part d'une constatation qui n'est pas toujours fausse, si tu veux, au départ, mais il absolutise, il systématise. C'est un cartésien, Darby. Alors, il a élaboré, il a donné les premières... à cette époque-là, si tu veux, la plupart des églises avaient oublié que Jésus revenait. Ça faisait partie du credo, il reviendra un jour, dans 60 000 ans peut-être, tu vois, c'était à peu près ce qu'on pensait, quoi. Hein. Et le mérite de Darby, il faut quand même lui rendre ce qui lui revient, ça a été justement de dire, ben non, le Seigneur revient. C'était l'époque un petit peu, il y avait Émile Guers, il y avait tout ça, il y avait Félix Neff. C'était ensuite, il est venu sur les brisées de ces gens-là, quand il est venu en Suisse, ça. Et donc, si tu veux, il a élaboré le système avec l'Antichrist, les 7 ans, 7 ans de la tribulation divisé par 2 pendant la première partie. Donc, il avait redécouvert avec Guers et tous autres la résurrection d'Israël. Il annonçait la résurrection d'Israël, ça il avait raison. Et donc, au début de la 70e semaine de Daniel, début des 7 ans, donc, Israël sera redevenu un État, l'Antichrist fera une alliance avec Israël, qu'il brisera 3 ans et demi après, puis après 3 ans et demi, il va persécuter Israël, et puis alors je ne sais plus où placer l'enlèvement, il y avait des grosses discussions entre eux, ils n'étaient pas d'accord, si l'enlèvement c'était au début de la tribulation, au milieu de la tribulation, ou à la fin de la tribulation, alors là ils se sont battus, vraiment, ils se sont excommuniés les uns les autres à cause de ça, parce que certains croyaient que c'était au début de la tribulation, l'autre au milieu, l'autre à la fin, enfin bon, il y a eu des trucs absolument inénarrables, tu vois, pour le niveau de trucs pour lequel ils s'excommuniaient. Et puis ensuite, donc l'enlèvement de l'Église. Enfin, et puis bon, tout n'était pas faux, si tu veux.
C'est bon, ça, parce que ça sensibilise un peu les hommes, un peu.
Il a ramené à la lumière des vérités qui étaient oubliées. Mais le problème, c'est qu'il a absolutisé. Et finalement, aujourd'hui, on reste un peu là-dessus. Et il a rendu finalement un très mauvais service. On en parlait avec Yvon Charles. C'était le sujet de notre discussion pendant que Pierre-David nous attendait. Là, on a laissé passer l'heure tout à l'heure. Et tu as entendu discuter de ça à table, Pierre-David. Il a absolutisé tellement, si tu veux, qu'aujourd'hui, on arrive à ce stade où un certain nombre de choses qu'il a dites ne se sont pas accomplies. Aujourd'hui, on le voit par rapport à Israël et des trucs comme ça, quoi. Et alors, c'est très grave parce que les gens disent, donc, c'est que tout ce qu'il a dit est faux. Et ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et aujourd'hui, on devient dans les milieux évangéliques amillénaristes, c'est-à-dire qu'on ne croit plus au retour de Jésus prémillénaire. Et même dans certains instituts bibliques où des gens étaient très, très, très millénaristes, comme Pache et tout ça, quoi.
Ça passe d'une extrême à l'autre.
Oui, ça passe d'une extrême à l'autre. C'est pour ça que c'est toujours très, très dangereux d'avoir, quand on n'est pas sûr, de dire des choses, voilà, quoi. Et ça, c'était le grand drame de Darby. Alors, Darby était un homme d'une entêté comme 36 mules. Et quand il avait pensé avoir trouvé quelque chose de vrai, il supportait aucune contradiction. Et son interprétation était plus importante que ce qui était écrit dans la Bible. Au lieu de dire, bon, écoutez, oui, là, la Bible n'est pas claire, on peut discuter, etc. Moi, je pense que c'est mon opinion, mais de fait, je peux me tromper, etc. Non, 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 il avait raison. Il avait raison. Et celui qui n'était pas d'accord avec lui, excommunié.
Il y a une Bible la Scofield qui tient beaucoup compte des dispensations.
Alors, elle est très dispensationaliste, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça reste surtout dans les milieux évangéliques non charismatiques, mais même au milieu de Pentecôte. Hein. C'est la eschatologie officielle. Vous trouvez par exemple chez le Cossack, les vérités à connaître, tout ça, c'est exactement ça. Hein. Alors, encore une fois, tout n'est pas faux, mais. Il y a des choses qui sont humaines, des extrapolations, des interprétations, etc.
C'est marrant parce que vous dites que sa théorie, c'est que Dieu ne refait pas les choses, et pourtant il discutait avec Émile Guers du retour d'Israël qui devrait arriver. Donc lui-même,
oui, mais pas Israël rétabli dans le régime de la loi, c'était ça. Dans la dispensation de la loi est terminée, il n'y aura plus de dispensation de la loi. Et au contraire, Israël est en porte-à-faux par rapport au plan de Dieu, parce qu'il reste fidèle à la loi. Israël actuel, incroyant, reste fidèle à la loi. Et donc là, Dieu ayant aboli la dispensation de la loi et remplacé la dispensation de la loi par la grâce, Israël se trouve dans la situation où est l'Église par rapport à lui, Darby, et aux frères des assemblées, c'est-à-dire qu'ils entendent maintenir à tout prix quelque chose que Dieu a aboli. Donc ils sont coupables, ils sont plus dans le plan de Dieu, quoi. Et quand Dieu rétablit Israël, il ne le rétablit pas d'ailleurs pour lui-même, il le rétablit. Et ça, vous trouvez dans les milieux évangéliques, c'est quelque chose d'abominable, ça m'énerve quand je vois ça, n'est-ce pas ? Il le rétablit pour que le temple puisse être construit, pour que l'Antichrist puisse s'asseoir dans le temple, et pour que, etc., les dernières choses puissent s'accomplir, quoi. Bon, après, Israël se convertit à la réalité nouvelle que Dieu crée, n'est-ce pas ? Le nouveau ciel, la nouvelle terre, et tout ça dans le système de Darby, quoi. Mais c'est pas Israël en tant que tel, quoi. C'est une nouvelle, quelque chose de nouveau que Dieu crée. À partir des choses qui existent, quoi. Voilà. Bon, peut-être on va rester là.